le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue sur France Culture pour ce service protestant. En ce dimanche matin, nous accueillons le pasteur Rudy Pop, pasteur de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, au Temple Neuf, à Strasbourg. Bonjour Rudy.
Bonjour.
Alors, nous allons dans quelques instants ouvrir la Bible et découvrir le passage du jour que vous allez commenter pour nos auditeurs. Auparavant, nous allons parler de la Bible et d'une Bible particulière puisque nous allons parler de la Bible que vous annoncez être la Bible la plus grande du monde qui est exposée actuellement au Temple Neuf, donc à Strasbourg. Qu'est-ce que c'est que cette Bible la plus grande du monde ?
Oui, c'est vrai que ce titre est un peu vaniteux. Nous l'avons créé, cette exposition performance, pour ainsi dire, à l'occasion de l'année des 500 ans de réforme, en 2017, à la Pentecôte, pour donner aussi du sens à cette commémoration de la réformation dans une perspective biblique. Et effectivement, comme elle couvre sur les bas-côtés du Temple Neuf 66 mètres carrés, nous n'avons pas hésité à la baptiser la plus grande Bible au monde, même si je n'ai pas les moyens pour vérifier si c'est vraiment vrai.
Alors, comment elle se présente, cette Bible ?
Alors, c'est en fait une Bible en 10 pages. C'est en fait, ce sont des parois en tissu de 3,80 m de hauteur et 1,80 m de largeur. Sur chaque paroi, on trouve 10 colonnes avec le texte biblique dans son intégralité, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a aussi des illustrations qui ont été produites, pour cette Bible suspendue par l'illustratrice strasbourgeoise Dorothée Duns, et qui, en fait, propose un chemin.
Quand on regarde l'affiche qui présente cette exposition, cette Bible, on lit « La Bible, un jardin de vie, et si l'on partait l'habiter ?» Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on imagine bien un jardin dans lequel on peut aller habiter, mais par rapport à la Bible, qu'est-ce que ça veut dire ?
L'idée que nous avions dans la tête était de montrer que le canon biblique, donc ça veut dire la collection des livres pour les églises protestantes au nombre de 66, a derrière, dans la conception, l'idée de quelque chose d'harmonieux. Il y a effectivement des paysages, comme dans un jardin, d'une certaine manière, qui se complètent. Il y a des paysages qui ressemblent à des déserts, que l'on doit traverser en tant que lecteur. Il y a des montagnes que l'on grimpe, des jardins fleuris où on trouve effectivement les fleurs de la Bible. Et donc, nous avons utilisé cette image d'un jardin de vie pour exprimer que la Bible est un tout, est un ensemble harmonieux composé, que l'on appelle effectivement techniquement un canon, mais que en ayant le livre en main, on perd parfois un peu de vue, et c'est le cas de le dire effectivement, l'ensemble et l'harmonie de cet ensemble.
Alors, on voit effectivement toute cette Bible en un seul coup d'œil, mais vous avez aussi mis en exergue certains titres, les titres des livres, mais aussi certains versets.
Notre idée était de mettre en avant, et vraiment visuellement en avant, puisque c'est imprimé de manière beaucoup plus grande, ces quelques versets. Il y en a à peu près 70 qui sont visibles comme cela à une distance de 5 à 10 mètres. Des versets qui racontent la spiritualité que l'on a fait à partir du texte biblique et qui n'est pas toujours, j'allais dire, la plus représentative. On se demande parfois pourquoi on choisirait plutôt tel ou tel verset qu'un autre. Mais cela fait partie aussi de l'histoire de la réforme protestante.
D'accord. Alors vous parlez aussi de circulation de la parole, habiter à l'intérieur des Écritures pour faire circuler la parole. Est-ce que vous vous rendez compte que autour de cette exposition, la parole circule et quelle parole ?
Alors parfaitement. Le Temple Neuf a été aménagé pour son espace liturgique en 2014 à travers l'installation d'un espace liturgique en rond. Donc il y a une table ronde au milieu, la table de communion, avec donc l'assemblée qui est disposée en cercle autour de cette table de communion centrale. Et donc l'idée de dire qu'on habite à l'intérieur des Écritures s'impose immédiatement, puisqu'on voit suspendue la Bible autour de cet espace circulaire, où bien sûr, pour le culte et pour toutes les célébrations, notamment œcuméniques, que nous y célébrons, on fait circuler la parole. C'est précisément le projet, j'allais dire, de la spiritualité chrétienne dans son ensemble, que d'habiter à l'intérieur des Écritures pour faire circuler la parole, en faisant bien sûr la distinction aussi entre l'Écriture et la parole, qui ne sont pas identiques, mais qui nécessitent précisément cet espace de communication que nous sommes en tant qu'assemblée chrétienne.
Alors dans cette exposition, sur ces panneaux apparaissent également aussi des questions. Et en plus, ces questions, il y a des éléments de réponse avec l'intermédiaire d'un flashcode. Expliquez-nous ce que c'est que ce système, quelles sont ces questions et quelles sont les réponses qui sont données.
L'idée est de découvrir, insérer dans le texte biblique, des questions que tout le monde se pose.
Alors,
quelle est la différence entre la Bible et le Coran? Dieu existe-t-il? Comment est-ce que ça fonctionne, une messe catholique ou un culte protestant? Enfin, toutes sortes de questions qui sont liées effectivement parfois au contexte biblique et parfois qui sont tout simplement des questions de culture générale, je veux dire chrétienne, que l'on peut rencontrer aussi en France. Et donc, on a des iPads que l'on peut emprunter, ou bien prendre tout simplement son smartphone pour flasher un flashcode et ayant la question juste à côté. Et donc, on retombe ensuite sur le site internet de la paroisse du Temple Neuf, templeneuf.org, pour y trouver, on va dire, une proposition de réponse. Parce que, bien sûr, on voulait faire cela très rapidement, avec une courte réponse. Donc, c'est pas une science en soi que d'avoir là des éléments de réponse, mais qui sont un début.
Alors, cette plus grande Bible du monde est actuellement visible au Temple Neuf à Strasbourg, mais y a-t-il moyen de la voir ailleurs ?
Nous l'avons conçue comme une exposition itinérante. Nous avons en fait un exemplaire qui est dédié au Temple Neuf et un exemplaire qui est dédié au voyage, qui s'envoie même par la poste d'ailleurs, dans un gros carton. Et donc il est possible de la commander. Il est nécessaire d'avoir un tout petit peu de place dans son temple ou dans l'espace dont on dispose, puisque effectivement ça couvre 66 mètres carrés, un peu plus même, sur 10 gros panneaux. Alors il faut trouver l'emplacement pour l'exposer, mais il est tout à fait, et d'ailleurs gratuitement, possible de la commander pour une période donnée. Et donc ensuite, on peut aussi créer des animations autour de cette exposition.
Merci beaucoup, pasteur Rudy Pop, de nous avoir présenté cette plus grande Bible du monde. Et maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le texte avec un extrait de l'évangile de Jean que vous nous commentez ce matin, l'évangile de Jean au chapitre 2, sur votre exposition géante, je ne sais pas, ça doit être vers la fin, sur les derniers panneaux, l'évangile de Jean, non, sur le dernier peut-être.
Tout
même.
À fait, c'est le 9e panneau où on trouve l'évangile selon Jean.
On va découvrir ce texte avec vous dans un instant.
Avoir la foi semble être le privilège du petit nombre dans notre société. Même à l'intérieur des églises, beaucoup confessent leur absence de foi, leur difficulté à confesser la foi, parce qu'ils n'arrivent pas à couvrir de leurs pensées les affirmations qui sont considérées comme représentant la foi, ou bien parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, en Dieu, en ceux qui forment son Église. Parce qu'ils se méfient peut-être d'une attitude arbitraire qui les ferait apparaître comme des propriétaires de la foi, ou bien parce que l'incroyance ne s'atténue guère par un surplus de croyance. Par la lecture de l'Évangile de ce dimanche, nous apprenons qu'il y a bien une foi dont Jésus aussi se méfie, dont il provoque la crise, au point que l'expérience chrétienne se récapitule désormais dans une confession de foi paradoxale. Même si je ne sais pas croire en Dieu, Dieu croit en moi. La foi de Dieu m'offre le temps, m'offre l'espace de croire provisoirement en cette foi qu'il met en moi, au lieu de me forcer à faire mienne la foi. Pour entrer dans ce texte biblique, je vous invite à la prière. Béni soit l'homme qui s'appuie sur Dieu. Dieu sera son appui. Il sera comme l'arbre planté près des eaux qui pousse ses racines vers la fraîcheur du courant. Quand vient la chaleur, l'épreuve, l'angoisse, son feuillage reste vert, sa foi et son espérance intactes. Notre Père, nous invoquons ta présence. Mais il est vrai qu'en nous subsistent des résistances, les débris de vieilles luttes que nous croyons disparues, mais qui ressurgissent encore. Redonne-nous un cœur pur, un cœur droit, afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver ta présence d'amour. Écoutons la fin de la lecture de l'Évangile pour ce dimanche. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, les versets 23 à 25, qui introduisent la rencontre de Jésus avec Nicodème, ce notable qui a entendu parler du Seigneur.
Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. Mais Jésus, lui, ne croyait pas en eux, car il les connaissait tous, et il n'avait nul besoin qu'on lui rendît témoignage au sujet de l'homme, il savait quant à lui ce qu'il y a dans l'homme.
À l'évidence, chers auditeurs, l'Évangile selon Jean n'est pas une biographie de Jésus. Il veut plutôt être lu comme une série de tableaux dédié au problème de la foi. Jean s'est consacré à présenter différentes figures de la foi chrétienne. Ce qui est mis en scène par l'Évangile, c'est la foi acceptée ou refusée, élémentaire ou achevée, obscurcie ou aboutie, pour mettre en scène le drame de la foi en Jésus-Christ. Sont ainsi évoquées des personnes étrangères au cercle des disciples, dont la vie se trouve transformée par une rencontre imprévue avec Jésus. Mis en contact avec l'homme de Nazareth, ils sont engagés dans un processus de découverte. Ils franchissent différentes étapes qui mènent de l'incrédulité à la foi. Et même si la foi peut être présente dans la vie d'une personne, elle se trouve, par le biais de la rencontre avec le Christ, totalement reformulée, restructurée. Nicodème est une telle figure de la foi. Il vient à Jésus rempli de la certitude qu'il va rencontrer un homme de Dieu. Mais il s'entend dire par le Christ qu'à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. La foi élémentaire de Nicodème doit subir le passage de la nouvelle naissance. Ces versets que nous avons entendus représentent la transition du récit des premiers signes de Jésus à celui de son entretien avec Nicodème. Pour introduire son attitude un peu spéciale face à Jésus, Jean affirme donc que, comme Nicodème,
beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait. La foi de ces personnes est non seulement provoquée par des miracles, mais elle se résume à l'admiration d'un faiseur de miracles. Voici une figure de la foi qui est un simple émerveillement, une fascination, un enchantement. Or Jésus, lui, n'est pas du tout enchanté par cette foi de croyants admirateurs. Il ne croit pas en eux, c'est-à-dire il ne se fie pas à eux. On dirait que Jésus a perdu la foi en la foi de ces hommes. Il se méfie de la paralysie de leur croyance. Il y a donc bien une foi dont Jésus provoque la crise, parce qu'il connaît ce qu'il y a dans l'homme religieux et fier de l'être. Jésus introduit une incertitude dans la foi. Il ne la croit pas, il ne l'achète pas telle qu'elle. Cette incertitude dans la foi est devenue constitutive de l'expérience chrétienne. La confession de foi chrétienne ne saurait en effet s'appuyer sur la foi que l'on ressent, la foi que l'on croit avoir. Car notre sentiment de foi resterait à jamais ambigu. La seule foi qui reste, qui résiste à l'incertitude, c'est la foi de Dieu. Ainsi, l'expérience chrétienne se récapitule dans cette confession de foi paradoxale. Même si je ne sais pas croire en Dieu, Dieu croit en moi. Et justement parce que je n'ai pas la foi, Dieu croit en moi. Cette foi de Dieu, elle m'est offerte, elle est acquise gratuitement. Elle ne dépend pas de mes croyances ou incroyances. Elle me laisse le temps. Elle me laisse l'espace de croire provisoirement afin de mettre des mots toujours à redire sur la foi que Dieu met en moi. Être chrétien ne signifie donc pas être propriétaire de la foi. L'ambiguïté dans la confession de foi n'est jamais abolie, mais elle devient au contraire un moyen de la vie spirituelle. Cet aveu d'une certaine fragilité spirituelle jette aussi une lumière différente sur les difficultés de communication de la religion chrétienne dans notre société. Le croire ne devient pas plus transparent aux soi-disant athées ou contemporains en recherche si les chrétiens affichent une assurance sans faille ni faiblesse. Pour témoigner, il faut justement savoir admettre le doute, se savoir traversé par les mêmes fractures et blessures que toute autre personne. Il n'y a nul besoin d'avoir une réponse à toutes les questions, y compris à celles que personne n'a posées. Souvent encore, nous portons le coup de grâce au croire à ce pèlerinage patient de lecture et de réflexion biblique par une affirmation de la foi trop sûre, pour être certain de ne pas perdre la foi. Or, il me semble que le problème religieux crucial de beaucoup de contemporains, c'est justement qu'ils n'ont jamais convenablement perdu la foi. Et par voie de conséquence, perdre ou se méfier de la foi leur apparaît comme la fin de la religion, qui ne présenterait plus d'intérêt une fois qu'on aurait perdu la foi. Qui n'a pas la foi, pense-t-il, aurait fini de croire. Je voudrais au contraire leur dire que perdre la foi, c'est peut-être le début du croire. Nous pouvons cesser de cultiver, plus que de raison, cette foi érigée en croyance, en conviction, en valeur. Aussi, il me semble important de devenir des lecteurs fidèles non-croyants de la Bible, parce que je ne veux pas obscurcir la foi que Dieu met en moi par ses diverses croyances qui mélangent et les clartés et les ténèbres de mes errances. Je pense d'ailleurs que ce sont principalement leurs croyances qui empêchent beaucoup de croyants de croire. Car si une croyance est en quelque sorte le résultat du croire, elle en est aussi la paralysie. Non, croire tel que je l'apprends par la lecture de la Bible ne produit pas de croyance arrêtée ou figée. Croire selon la Bible, ça n'est pas le fait du croyant, mais c'est le fait du pèlerin. Croire, pour moi, c'est donc un chemin où souvent je ne me rends compte qu'après coup, par le récit biblique, de ce qui m'est arrivé sur la route. Mes croyances sont bien provisoires, mais elles me rappellent mon histoire spirituelle, celle de mes compagnons de route aussi, qui ont marché avec moi, avant moi, mais elles ne sauraient contenir la foi de Dieu. Je vous invite à la prière. Qui sommes-nous, Seigneur, pour te confesser? Nous savons à peine nous exprimer en ce qui nous concerne. Comment pourrions-nous parler en ton nom? Comment gagner des disciples à ta cause, Seigneur, alors que notre communauté, ton Église, est désunie et se conforme trop souvent aux préceptes de ce monde? Comment témoigner de ton amour, Seigneur, alors que notre vie est cousue de contradictions douloureuses? Seigneur, nous croyons. Viens au secours de notre manque de foi. Et ensemble, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons l'envoi et la bénédiction de la part du Seigneur. Oui, notre seule certitude, c'est que si nous nous relevons pour marcher, c'est grâce à Dieu qui met sa foi en nous. Il croit en moi, là où je n'ai pas le courage de croire. Il espère, là où je n'ai plus d'espérance. Il aime, là où je n'ai pas la force d'aimer. Le Seigneur garde ta vie, le Seigneur garde ta foi. Il garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant. Nous étions aujourd'hui avec le pasteur Rudy Pop, de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine au Temple Neuf de Strasbourg. Merci à Clotilde Puivin et à Antoine Viossa pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Retrouvez cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Vous pourrez télécharger le texte ou réécouter cette émission. Et si vous voulez le texte par courrier, écrivez au service radio de la Fédération protestante de France, au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Retrouvez également sur les sites les informations pour retrouver cette exposition, la Bible Jardin de Vie, au Temple Neuf, templeneuf.org. Je vous retrouve tout de suite pour Culture Protestante. Très bon dimanche à tous.